Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast La Parole aux orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice, et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, je reçois Constance. Bonjour Constance.
Bonjour Sarah.
Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices ?
Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Constance Duval, orthophoniste dans le nord de la France. J'ai été diplômée en 2015 de la Haute École Condorcet de Saint-Guilain, en Belgique. Et donc là, j'ai mon cabinet dans le nord de la France. Donc je suis en fait à mi-temps libérale, à mi-temps en salariat dans une association de prévention.
D'accord.
Et depuis le mois d'avril, je suis co-gérante de la plateforme EcoOrtho.
Ok, super. On aura l'occasion de parler d'EcoOrtho un peu plus tard dans l'interview. Est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi, toi, tu t'es dirigée vers l'orthophonie en première intention ?
Alors, donc moi, c'était quand j'étais au lycée. En fait, je me suis intéressée à trois métiers. J'étais intéressée pour devenir éducatrice spécialisée, psychomotricienne ou orthophoniste. Donc, okay. J'ai eu la chance de rencontrer des professionnels dans ces trois domaines. Donc, finalement, j'hésitais entre EduxPé et puis Ortho. Et finalement, en fait, ce qui m'a le plus intéressé en orthophonie, c'est d'abord tout ce qui concernait la communication, la pluridisciplinarité aussi, vraiment le fait de recevoir tellement de patients différents de tout âge, et puis les champs d'intervention, qui était vraiment très, très divers. Et ça, vraiment, ça m'a énormément intéressée d'être vraiment au carrefour du soin, en fait, et dans tellement de domaines différents. C'est vraiment ça qui m'a intéressée. En fait. Donc, dès que j'ai eu mon bac, en fait, j'ai tenté le concours d'orthophonie que j'ai eu à Strasbourg. Et puis, finalement, en même temps, j'ai été prise en Belgique. C'était plus près de chez moi. Donc, je suis partie là-bas.
Ok, et c'était pas plus difficile de faire tes études dans un autre pays, même si c'était plus près de chez toi, avec les démarches, etc.
Non, franchement ça a été, alors après moi je n'habite pas très loin de la frontière, donc déjà là j'avais vraiment l'habitude d'aller en Belgique, j'ai vraiment apprécié mes études là-bas, c'est vrai que c'est quand même différent des études en France je trouve, ça m'a vraiment beaucoup apporté de par les stages, je pense que d'autres collègues le diront aussi que vraiment la pratique là-bas, on est vraiment au cœur de la pratique dès la première année, donc c'est ce qui m'a vraiment le plus apporté. Et puis finalement, j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire des stages d'équivalence assez facilement à l'époque.
Ah, chouette.
Donc oui, ça c'était une chance quand même. Donc non, vraiment, ça s'est vraiment bien passé. C'était une école que je conseille de toute façon parce que vraiment très, très chouette avec des profs très intéressants. Donc c'était super chouette.
Super, tu peux nous redire le nom de l'école parce que je crois que c'est la première fois que je l'entends.
Alors, c'est HEPH Condorcet, c'est la haute école provinciale du Hainaut à Saint-Guilain.
D'accord, ok.
Mons, en fait, c'est à côté de Mons, en Belgique, mais c'est Saint-Guilain, du coup.
D'accord, ah bah super. Et donc, tu disais que tu étais intéressée par tout l'aspect de pouvoir recevoir des gens très différents, des pathologies diverses. Donc, en fait, tu avais déjà un petit peu dans l'idée de te diriger vers le libéral, où c'est là où on voit le plus de monde avec des pathologies différentes.
Oui, en fait, dès le début de ma pratique, moi, j'avais vraiment envie de recevoir tous les patients. Déjà, dès mon diplôme, en fait, j'ai eu envie de faire plein de formations. Voilà, vraiment, les formations, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je l'avoue, dans mon métier, c'est vrai qu'on a la chance quand même de pouvoir faire beaucoup de formations tous les ans. Et je pense qu'il y a peu de métiers, finalement, dans lesquels on peut se former aussi facilement et dans tellement de domaines différents.
Ouais,
donc, c'est vrai que je me forme très souvent.
Il y a une offre de formation qui est énorme en orthophonie. Et oui, c'est vrai que je crois qu'on est une des professions qui se forme le plus. Hein.
Oui, c'est ça. Et puis, il y en a de plus en plus. Et puis, même dans un domaine, on peut avoir des approches différentes aussi. Donc, c'est vraiment super chouette d'aller pêcher comme ça des infos partout. Et donc, en fait, dans ma pratique libérale, au départ, je prenais vraiment de tout. langage oral, langage écrit, la cognition mathématique, de la neuro, de la dysphagie, enfin vraiment les domaines ORL, OMF, hein, voilà. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les domaines ORL et OMF, du coup, m'intéressaient de plus en plus parce que finalement, je me suis rendu compte que le toucher thérapeutique m'intéressait énormément. Moi, j'aime bien être vraiment dans l'action et dans le fait d'aller toucher les patients. Vraiment, que ce soit les bébés, les enfants, les adultes, les personnes âgées, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et c'est vrai que du coup, avec la pratique libérale, j'ai eu la chance d'avoir toujours des demandes aussi dans ce sens.
Ah, génial.
J'hésitais aussi à travailler en hôpital, mais finalement, voilà, l'occasion ne s'était pas présentée. Et puis, j'avais voilà, la patientèle et puis cette diversité quand même au cabinet. Même si au début de ma pratique, je ne m'intéressais pas du tout aux troubles alimentaires pédiatriques. Voilà, ça ne m'intéressait pas, je n'avais pas forcément envie. Et puis une fois, je suis allée rejoindre une amie collègue qui travaille à Jeanne de Flandre, c'est l'hôpital en néonat. Et donc, elle m'a fait visiter le service, j'ai participé à des ateliers patouilles, tout ça. Je me suis dit, ah oui, quand même, finalement, pourquoi pas? Et puis finalement, c'est quand j'ai eu mon fils, il y a maintenant 5 ans. Et quand je l'ai vu grandir, qu'on a commencé la diversification alimentaire, tout ça, en fait, j'ai commencé à faire le lien avec le développement du langage. Alors que déjà avant, je le faisais, hein, c'était pas ça, mais je me suis dit, ah oui, tiens, quand même, c'est vachement lié quand même, ces deux points-là. Et je pensais à certains patients et je me suis dit, mais jusque-là, je n'avais jamais creusé au niveau alimentaire, tout ça. Et puis finalement, je me suis dit, mais en fait, si, il faut que j'aille voir. Et puis, dès que j'ai repris au cabinet, je me suis formée avec Audrey Lecouffle et Emeline Lesec, qui sont des formatrices super chouettes et super intéressantes. Et c'est vrai que quand tu les écoutes et quand tu commences à faire une de leurs formations, tu as envie de toutes les faire. Et elles m'ont transmis un petit peu le virus et la passion pour les troubles alimentaires, en fait. Et donc,
Bah,
voilà, c'est comme ça que j'ai continué au cabinet à prendre de plus en plus de troubles alimentaires, finalement.
super. Et c'était laquelle formation que tu as fait de Lecouffle? Attends, j'inverse toujours. Non, Audrey Lecouffle et
Oui,
Emeline Lesec, c'est ça.
Emeline Lesec, c'est ça. En fait, au départ, j'ai fait le socle de base, donc c'est sur
D'accord.
4 jours,
Oui.
finalement. Donc, c'est déjà bien dense et on arrive vraiment à bien brasser tous les troubles alimentaires. Et ensuite, elles ont ouvert là récemment la communauté Happy Ortho. En
OK.
fait, là, elles accompagnent les orthophonistes chaque semaine et chaque mois sur différentes masterclass, etc. Et maintenant, elles proposent des formations annexes. Donc là, par exemple, récemment, j'ai fait celle avec elle et puis un gastropédiatre, par exemple.
D'accord.
Elle propose aussi, c'est Audrey qui propose une formation spécifiquement sur le nourrisson de 0 à 4 mois. Et Emeline propose une formation sur les troubles alimentaires autour des patients porteurs de handicap, par exemple.
OK.
Donc, tu vois, vraiment, c'est très, très riche. Donc,
Ouais.
vraiment, ça, je les conseille.
Et donc, une fois que tu as mis le pied dedans, après, tu as continué à travailler avec les troubles alimentaires pédiatriques.
Oui, toujours en libéral, du coup.
Ouais.
Ouais. Et en
Et
fait,
comment...
c'est... Oui, pardon.
Vas-y, vas-y, pas de souci.
Non, non, je disais, du coup, c'est en fait, c'est il y a 2 ans. En fait, je m'étais toujours intéressée aussi à la prévention. Vraiment, en fait, je faisais déjà partie de l'association de prévention Parlons-en, qui est l'association du Nord-Pas-de-Calais, en fait. C'est chaque
Des
région,
orthophonistes?
oui, une
Ouais, ok.
association des orthophonistes. Donc, je menais déjà des actions de prévention. En fait, chaque année, je sollicite des orthophonistes pour aller mener différentes interventions, comme par exemple un bébé, un livre, où en fait, on intervient dans les maternités, on distribue un livre aux parents des nouveau-nés. Et puis
Génial.
finalement, il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité de partir en salariat dans une autre association de prévention qui est APRIS. Donc, c'est l'association de prévention et de réduction des inégalités de santé dans le Pas-de-Calais, du coup, le département du Pas-de-Calais, où là, en fait, ma mission principale, c'est de mener des dépistages de langage auprès d'enfants qui viennent de passer leur bilan des 4 ans, tu sais, avec la PMI.
Oui.
Donc, en fait, nous, derrière, on vient réaliser donc des dépistages. Hein, ce ne sont pas des bilans orthophoniques, mais vraiment des dépistages pour aller confirmer ou infirmer les éventuelles difficultés relevées par les puéricultrices. Parce que finalement, bon, je pense que ça doit être le cas un petit peu partout en France, mais en tout cas, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a énormément d'attentes. On a des listes d'attente énormes dans nos cabinets. Et je pense vraiment que la prévention, c'est l'une des solutions, en tout cas, pour essayer de pallier ces listes d'attente au maximum. Donc là, en fait, avec ces dépistages-là, J'essaye en fait de désengorger les listes d'attente en disant, parce qu'en fait, finalement, sur le terrain, on se rend compte que les professionnels de la petite enfance ne sont pas forcément au fait de, par exemple, tout simplement du développement de l'articulation
Ouais.
des enfants. Donc finalement, où on se retrouve avec des enfants qui ne prononcent pas le son R à 3 ans et demi, par exemple,
Ouais.
ou 4 ans. Donc finalement, on essaye vraiment d'aller prêcher un petit peu la bonne parole par rapport à tout ça. Ça, c'est ma mission principale là-bas. Et sinon, je mène aussi des actions de prévention sur finalement tous les domaines qui peuvent concerner l'orthophonie. Ça va être sur la presbyphagie, sur le langage, les troubles des apprentissages, les troubles oro-myo-fonctionnels aussi, parce que finalement, ça, c'est... Enfin, c'est pas qu'il y en a de plus en plus, mais c'est un petit peu la mode en ce moment aussi. On en parle de plus en plus, et tant mieux, de toute façon.
Oui.
Donc, et auprès de différents publics, donc ça peut être des parents avec des ateliers de stimulation langagière, ça peut être des professionnels de la petite enfance, dans l'éducation nationale, des médecins par exemple, des pédiatres. Donc c'est très riche aussi, parce que finalement, je retrouve aussi d'autres professionnels, et c'est aussi intéressant d'avoir des discours un petit peu différents, mais finalement qui se regroupent quand on est dans le partenariat parental avec des parents aussi finalement.
Oui.
D'avoir aussi ces deux casquettes, c'est super riche.
Et pour toi, ça doit être un challenge et très intéressant de devoir adapter ce que tu dis en fonction du public, parce que là, a priori, tu as des publics très différents. Tu vas pas expliquer la même chose en puériculture que à des pédiatres, que à des gériatres, par exemple. Je sais pas, ça peut être
C'est
hyper
ça.
différent, ouais.
Tout à fait. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est aussi de faire des recherches sur tout ce qui se fait de plus récent, où vraiment, effectivement, auprès des médecins, par exemple, je vais aller chercher les dernières études qui viennent de sortir, ou auprès des parents, ça va être vraiment des conseils, des sortes de petits tips, en fait, à mettre en place. Ou avec certaines familles, on va se dire, bah, finalement, si j'arrive à donner ne serait-ce qu'un conseil, si le parent arrive à mettre en place une petite chose, bien finalement, je vais y arriver. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir un public tellement divers. Parce que du coup, finalement, je vais aller chercher des infos un peu partout sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, on a de plus en plus d'orthophonistes qui donnent quelques conseils comme ça aux parents. Mais finalement, je vais aller pêcher ces informations-là. Je vais aller donner aussi des comptes Instagram aussi aux parents en disant, allez voir tel orthophoniste qui parle énormément du mouchage, par exemple, du lavage du nez. Enfin, tu vois, c'est super intéressant dans ce métier-là aussi.
Génial. Et concrètement, comment ça s'organise ton temps salarial là-dessus? Est-ce que tu as un endroit où tu travailles? Est-ce qu'au final, tu es tout le temps détaché parce que tu interviens dans la PMI, puis après sur d'autres lieux pour faire de la prévention?
En fait, principalement, on intervient dans les écoles. Puisqu'en
D'accord.
fait, on réalise des dépistages de langage, on est autorisé finalement à intervenir, puisqu'on ne fait pas passer de bilan orthophonique.
Ouais.
Donc, principalement dans les écoles, pour en fait, finalement, une question pratique pour les parents.
D'accord.
Vraiment réussir à faire venir tous les parents, parce que c'est vrai que parfois, on est face à une problématique où les parents ont, enfin, certaines familles ont des difficultés à mettre en place en fait les différents rendez-vous, à être présent aux différents rendez-vous de santé de leurs enfants. Donc finalement en fait dans l'association on a mes différentes collègues en fait qui accompagnent les parents dans les prises de rendez-vous chez le dentiste, l'ophtalmologiste, l'orthoptiste ou l'ORL par exemple. Et finalement en orthophonie nous on les fait venir donc principalement dans les écoles, sinon dans les PMI ou dans les maisons de solidarité. Et sinon les actions de prévention ça va être finalement, dans les centres sociaux, par exemple, ou quand on va mener des conférences, principalement, en fait, ce sont les villes qui nous sollicitent. Donc, ça peut être dans des endroits vraiment différents. Sinon, en fait, on a notre local, en fait, sinon, est situé à Lens, du coup, dans le Pas-de-Calais. Mais sinon, voilà, on intervient dans tout le Pas-de-Calais. Donc, ça
D'accord.
peut vraiment aller de la Côte d'Opale jusqu'à pratiquement la Picardie, en fait. Donc, on voyage beaucoup. Et
Ouais.
donc, finalement, je suis 2 jours et demi au cabinet. Et 2 jours et demi en salariat.
Ok. Et comment t'organises ton temps justement là, si on reste sur le salariat? Par exemple, tu disais que tu cherchais les dernières études, etc. Est-ce que ça fait partie de ton temps de salariat ou c'est du temps que tu dois prendre en plus parce que c'est toi qui choisis de faire tes interventions en regardant les dernières études?
Non, j'arrive à le faire pendant mon temps de salariat parce que finalement, en fait, on se calque sur les horaires d'école. Donc, en
Ah.
fait, finalement, les écoles ferment souvent à 11h30 pour la matinée.
Ouais.
Donc, en général, quand je suis dans ma voiture, en attendant l'ouverture de notre école. C'est là que, alors je vais faire mes saisies, en fait, parce qu'on saisit tout sur un logiciel. Donc déjà là, on a une charge administrative qui est tellement dérisoire par rapport au libéral. Ben ça, c'est un kiff. Et puis finalement, oui, les recherches, donc je vais les faire à ce moment-là. Mais après, je le fais aussi sur mon temps, le peu de temps libre qu'il me reste, on va dire, aussi le soir, le week-end, je vais aller chercher des infos aussi. Mais sinon, j'ai quand même le temps, dans mon temps de salariat, pour monter justement aussi toutes mes interventions. Ça, je le fais aussi pendant mon temps de salariat. J'ai la chance de pouvoir le faire à ce moment-là, en tout cas.
Ouais, ça, c'est super.
Oui.
Et là, tu disais que vous étiez démarché par les villes, etc. Donc, ça veut dire que c'est une association qui est déjà bien installée, parce que du coup, oui, c'est pas vous qui allez démarcher, enfin, c'est les villes qui viennent vers vous en plus.
En fait, principalement, on est subventionné par l'ARS, principalement par les PMI. Ça, ce sont des grosses subventions. Et puis ensuite, en fait, ce sont comme des appels à projets, en fait, où on nous démarche. Sur différentes thématiques. En fait, par exemple, là, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps avec une dentiste et une diététicienne sur tout le développement, finalement, oromoteur de l'enfant, tout le développement de la face, par exemple, de 0 à 6 ans. Donc, c'est super intéressant, en tout cas. C'est passionnant.
Ouais. Ça a l'air vraiment passionnant. Et oui. Si les auditeurs et auditrices sont intéressés par ça, on avait fait un épisode avec Laurie de ma palette d'ortho sur la prévention. Et elle était vraiment dans une asso, donc les assos locales qu'il y a dans chaque... Alors, c'est pas région, je crois que c'est département, il me semble, en orthophonie. Mais là, du coup, c'est différent parce que toi, t'es salarié aussi de cette asso. Oui. Et c'est la première fois que j'entends ça en ortho, une ortho qui soit salariée de l'asso.
Oui, oui, en fait, on est deux, chacune à mi-temps, en fait, finalement. En fait, c'est la directrice de l'association qui a eu cette idée, en fait, finalement, parce qu'en fait, mes collègues secrétaires se retrouvaient, quand elles essayaient de contacter les orthophonistes pour aider les parents à prendre leur rendez-vous, déjà, elles se sont rendues compte qu'en orthophonie, en fait, on ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, au début, elles étaient assez surprises, parce que finalement, les dentistes, les ORL, prennent les rendez-vous, que même si ce ne sont pas les familles qui contactent. Et c'est vrai qu'au départ, elles ne comprenaient pas forcément pourquoi. En orthophonie, nous, on ne fonctionnait pas comme ça. C'est vrai qu'en général, on attend ce que ce soit quand même les familles qui nous appellent. Donc finalement, ma directrice a embauché deux orthophonistes. Et on a pu aussi leur expliquer, de par notre expérience libérale aussi, pourquoi finalement on voulait que ce soit les parents qui nous contactent par ce partenariat parental qu'on veut démarrer dès le premier appel, en fait, finalement. Ouais. Je pense que c'est la raison principale, en tout cas.
Et nous aussi, on reçoit les gens pour un petit moment. Alors que là où le dentiste va peut-être voir l'enfant une seule fois, s'il n'y a besoin qu'une seule fois de soins, nous, on sait que c'est pour un petit moment. Donc, c'est vrai que c'est hyper important quand même.
C'est ça, je pense que vraiment le premier contact fait vraiment partie de l'alliance thérapeutique. En fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent dès le premier appel. En tout cas, pour ma part, je pense vraiment que quand je contacte les parents... il y a déjà quelque chose qui se joue, en fait, finalement, qui appréhendez-vous, d'où vient la demande. C'est vraiment important. Et donc, quand finalement, c'était la secrétaire d'une association, je ne dis pas qu'il n'y a pas de demande, hein, bien évidemment, mais en tout cas, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous, on ne fonctionne pas de cette manière. Et finalement, en fait, quand on réalise nos dépistages, on essaie de jouer finalement sur ces listes d'attente pour des enfants qui n'ont pas besoin. Et même pour les enfants qui ont besoin, en fait, on essaie de déjà donner des conseils de première intention, de stimulation langagière basique, entre guillemets, parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'aller très loin. Mais finalement, en fait, on essaie de faire prendre conscience aux familles que même si on est sur une liste d'attente, on est dans l'attente active,
oui,
et pas passive. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on rencontre parfois des familles qui finalement se disent, je suis sur une liste d'attente et j'attends.
Oui.
Alors que finalement, on sait bien que les acteurs principaux dans le langage de leur enfant, ce sont les parents, bien évidemment. Mmh. Alors parfois, on rencontre des enfants chez qui c'est urgent, parfois, qui malgré l'urgence, en fait, ne trouvent pas d'orthophoniste. Là, on essaye vraiment de les accompagner au maximum. On va essayer de contacter nos collègues pour voir un petit peu où on est sur les d'attente, ou en tout cas leur faire savoir que nous aussi, on a vu l'enfant. Et que voilà ce qu'on a observé sur notre cours dépistage et que là, vraiment, l'enfant a besoin. Là, ouais, c'est un peu plus compliqué.
Pour vous, dans l'association, c'est quoi des enfants pour qui c'est urgent?
Alors, justement, ça, c'est pas évident. En fait, disons que c'est propre à nous deux, en fait. On essaie de se donner un peu des limites, mais parfois, en fait, on a des suspicions d'autisme. Des enfants qui, par exemple, au signe à 4 ans, sont non-verbaux, ou des enfants qui, visiblement, ont des troubles alimentaires assez massifs aussi, hein, des enfants qui ne passent pas au morceau, par exemple, à toujours 4 ans. Tout ce qui va être bégaiement aussi, on va essayer vraiment de trouver rapidement. Oui, tout ce qui va être oui, mutisme sélectif, les non-verbaux. Et puis oui, les enfants qui vraiment aussi ont visiblement. Alors, nous, ça reste toujours des suspicions, hein, bien évidemment, puisqu'on ne fait pas c'est bien orthophonique, on ne peut rien avancer avec un dépistage, qui vraiment semble avoir un trouble massif du langage et de la parole, où on voit vraiment que la compréhension semble vraiment impactée. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi vraiment de faire ça avec le parent. En fait, il faut vraiment que le parent soit présent. Et parfois, en fait, on fait prendre conscience aussi aux parents des difficultés de leur enfant. Et parfois, les parents me disent, ah oui, c'est vrai que j'avais pas conscience que mon enfant ne comprenait pas une simple consigne, par exemple. Ah, je savais pas qu'il ne connaissait pas ses couleurs, par exemple. Oui, tu vois, ce sont des choses comme ça qui parfois sautent un peu aux yeux aux parents, et en fait, ils n'en avaient pas conscience. Et finalement, même les instits nous rejoignent dans ce sens parce que nous, en fait, de manière inconsciente, hein, finalement, on vient un peu soutenir ce qu'elles disent déjà, en fait. Quand elles incitent les parents à prendre rendez-vous chez l'orthophoniste, tout ça, on vient les soutenir. Et à la fois, on essaie de leur dire aussi, essayez d'éviter de nous envoyer les enfants pour rien. Je dis pour rien, entre guillemets, mais souvent, c'est quand ça concerne l'articulation. Vraiment, ça, c'est un enfant de moyenne section qui ne fait pas le che-jeu. Ça, on l'a vraiment régulièrement.
Et je rebondis là, je viens de repenser, tu disais le fait de voir les parents aussi, ça permet qu'ils soient actifs quand ils sont sur liste d'attente, de leur faire faire, enfin de leur donner des conseils, de stimulation, etc. Et j'ai l'impression que, effectivement, ça peut-être que ça les met dans une autre posture quand ils auront un rendez-vous chez l'orthophoniste. Parce que c'est
Oui.
vrai que quand il y a des longues listes d'attente aussi, enfin après, c'est une hypothèse, mais je me dis que peut-être le risque, c'est que s'ils ont attendu 2 ans, par exemple, pour avoir un rendez-vous, quand ils vont arriver chez l'orthophoniste, ils peuvent être un petit peu remontés en se disant, ben ouais, en fait, c'est votre faute si mon enfant, il n'a pas progressé tout ce temps. Alors que si tu
Exactement.
leur proposes des choses, ça change peut-être le rapport et la posture sur la prise en charge ensuite.
Mais c'est ça, on essaie d'inverser un petit peu la vapeur. Parce que le problème des listes d'attente, c'est que quand le parent nous appelle, il a une demande à l'instant T. Et il a cette motivation qui est là derrière, dans l'aide de son enfant. Quand on rappelle 2 ans plus tard que l'enfant a toujours une problématique de langage oral, mais qu'il a maintenant 6-7 ans, la demande est toujours là. Mais forcément, pour certaines familles, en tout cas, je pense qu'on perd un petit peu en crédibilité, nous. Parce que oui, on a des discours comme ça dès le bilan initial. Et du coup, nous, finalement, on essaye aussi d'effectivement leur dire, mais essayez de mettre ça en place. Et j'essaie de leur dire que quand vous aurez fait le bilan et quand moi, collègue, aura estimé qu'un suivi sera nécessaire, hein, puisqu'à chaque fois, moi, je n'avance rien, ben, je me dis, mais vous aurez gagné du temps. Si vous arrivez à mettre ce petit truc en place, simplement de reformuler sans faire répéter votre enfant, par exemple, simplement, ça c'est le conseil phare qu'on donne, bien finalement, vous aurez gagné du temps. Et puis donc même vous, en fait, ce sera plus pratique pour vous parce que vous aurez moins besoin d'y aller, par exemple. Tu vois, j'essaie de leur avancer comme ça. Et oui, vraiment, de les remettre au cœur du développement de leur enfant, ça c'est vraiment ce qui est le plus important, en tout cas pour nous. Et je pense qu'on a la chance de pouvoir faire ça auprès de ses parents. En fait, parce que aussi le fait est que en libéral, on a de moins en moins le temps de pouvoir répondre au téléphone et aussi de donner ses premiers conseils. En tout cas, moi, au début de ma pratique, je le faisais. Mais je prenais toujours 1 heure, 1 heure et demie le soir. C'était pas gérable, quoi. Ça n'allait plus. Là, maintenant, bon, j'ai une liste d'attente en ligne, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Donc, du coup, on n'a plus déjà cette proximité avec le parent et on peut plus se permettre de répondre, tout ça. Et donc, les parents me disent, mais oui, mais il n'y a personne qui me répond, je ne sais pas quoi faire, je suis démunie, tout ça. Donc, on essaye vraiment de les aider. Donc, je dis, ah, bah, trop bien, on a enfin une orthophoniste en face de nous, en fait. Finalement.
Ouais, c'est génial qu'il y ait ce type d'association, de structure. Et pour les auditeurs et auditrices, si vous en connaissez aussi dans votre région, n'hésitez pas à m'en faire part. On pourra peut-être mettre dans la description du podcast aussi, en plus de ton asso, pour faire connaître un peu plus. Et peut-être qu'il y a certaines orthophonistes du coup qui vont se renseigner sur ce type d'asso et peut-être que du coup, ils recruteront plus d'orthophonistes aussi.
Mais oui, peut-être.
Ok, bon, bah, du coup, on a déjà vu cette partie de ta casquette, enfin, une de tes casquettes, en tout cas. C'était super intéressant parce que je ne savais pas du tout que tu avais cette activité, donc trop chouette. Je sais que tu t'intéresses aussi au domaine ORL, un peu plus pour les adultes aussi.
Oui. Ouais. Oui, donc dans ma partie libérale, bon, là du coup j'en vois forcément un petit peu moins parce que je suis finie 2 jours et demi et que dans mon secteur, je suis quasiment la seule à prendre des troubles alimentaires. Donc
D'accord.
c'est pas seulement des enfants, mais j'en ai quand même, hein, je suis quand même formée dans tous les troubles ORL pour les adultes aussi. Oui.
Ok, qu'est-ce qui t'a intéressé? Enfin, comment tu t'y es mis? Est-ce que c'est parce qu'on t'en a envoyé, du coup tu t'es dit allez on y va? Est-ce que c'est que tu as fait des rencontres?
Alors en fait, j'ai fait des rencontres. La première formation que j'ai faite en étant diplômée, c'est la formation de déglutition dysfonctionnelle de Roxane Lemaire. Et vraiment, ça a été une révélation pour moi. Parce qu'en fait, à l'époque, les cours de Romio qu'on avait à l'école, c'était, on avait vraiment des exercices qui étaient, enfin, que j'arrivais pas du tout à mettre en place au cabinet.
Ouais.
C'était vraiment, je sais pas si toi t'as connu, mais c'est les gros morceaux de sucre qu'il fallait mettre au bout d'une ficelle et qu'il fallait essayer de remonter avec la langue. Enfin,
Je
voilà,
connaissais pas ça, non.
C'est un exercice qu'on devait réussir à faire à l'école pour réussir l'examen.
Ah oui, c'est vrai?
Ah oui, donc du coup, si certains reconnaissent cet exercice-là, c'était l'enfer. Donc quand j'ai fait la formation de déglutition de Roxane, déjà j'ai accroché sur le contenu et aussi sur la personne, quoi. Vraiment la manière d'aborder les choses où vraiment elle a un côté pratico-pratique, mais on voit vraiment dans se toucher justement. C'est
Oui.
Surtout là en fait que j'ai découvert que j'adorais toucher mes patients vraiment. Elle dit toujours que elle et donc Mélanie Maréchal disent toujours qu'elles adorent mettre les doigts dans la bouche des patients, quoi, vraiment. Aller regarder ce qui se passe à l'intérieur, c'est devenu vraiment notre truc, quoi. Donc elle m'a vraiment transmis ça. Et du coup, en fait, finalement, j'ai fait toutes les formations qu'elle proposait. Donc la déglutition niveau 1. Après, elle fait un deuxième niveau du coup avec Mélanie Maréchal en lien avec l'articulation, les troubles articulatoires. Elle propose aussi donc la dysphagie avec Dorothée Guéquière, qui est aussi orthophoniste dans le Nord. Et là, elle fait aussi la formation sur les acouphènes, où elle a développé la méthode alt-acouphène, donc vraiment sur tous ces troubles ORL. Et c'est vraiment en fait grâce à Roxane, en fait, finalement, que elle m'a transmis la passion. En fait, à nouveau, le virus était là, et vraiment, oui, j'ai eu envie de me former vraiment dans tout ça. Je me suis aussi formée dans les techniques ostéopathiques appliquées à l'orthophonie avec Frédéric Schrick, qui est ostéopathe dans le Nord aussi et qui propose maintenant une formation pour les orthophonistes.
Ok.
Avec 2 niveaux différents aussi, où vraiment on apprend de manière un petit peu différente, c'est super intéressant, à toucher le patient, mais aussi à écouter le ressenti qu'on peut avoir au bout des doigts finalement. Je ne sais pas si ça parlera à certaines collègues, mais finalement, on apprend à toucher un petit peu différemment. Et j'ai aussi fait aussi la formation de K-tape, tu sais, le taping
j'ai
là,
vu
avec les straps.
Ça. Ouais.
Super intéressant aussi. Parce que ça, du coup, ça, je m'en sers donc avec tous ces patients adultes en ORL, mais aussi les enfants sur les troubles OMF, en oralité, en déglute. Super intéressant aussi, en fait.
Ok, je me demandais justement, parce que j'avais vu passer, et je me demandais si c'était vraiment applicable à l'orthophonie et si ça pouvait vraiment...
Complètement.
Ouais, ok.
Ah oui. En tout cas, la formation, elle nous apprend vraiment à placer les tapes donc, sur le visage et, allez, on va dire, au milieu du dos, par exemple, tu vois.
Ok.
Donc vraiment, dans tout ce qui va être cancérologie aussi, dans les laryngectomies, vraiment super intéressant, vraiment.
D'accord. Bon, bah, une de plus à ajouter à ma liste de formations que j'aimerais faire.
Ah oui, alors avec moi, oui, tu vas avoir envie de te trouver dans plein d'autres domaines.
Faut pas qu'on parle trop longtemps, sinon je vais exploser mes budgets DPC, si c'était elle. Ok, et donc, je crois que tu as continué à faire des choses dans le domaine ORL, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors du coup, l'année dernière, donc en octobre dernier, donc Roxane et Mélanie ont ouvert la plateforme EcoOrtho. Donc là, forcément, moi, très très fan. Donc, EcoOrtho, en fait, c'est une plateforme qui accompagne les orthophonistes dans la prise en soin des domaines ORL et OMF. Et là, franchement, je me suis dit, mais super outil. Pourtant, moi, qui étais formée dans tous ces domaines déjà, par exemple, en oralité, j'avais mes trames de bilan, mais je restais assez éparpillée. En fait, on a tellement de questions à poser. C'est vrai que dans les domaines pédiatriques, on a souvent des anamnèses qui sont assez énormes. Et j'avais tendance à partir dans tous les sens. J'avais plein d'idées et puis j'avais plus rien à la fois. Et puis, il fallait que j'observe mon patient, que je prenne des notes et que j'aille le toucher aussi. Mais finalement, que je prenne des notes sur ce que j'ai observé, enfin, ce que j'ai ressenti. Enfin, voilà. Et finalement, en fait, cette plateforme, elle a tout rejoint. En fait, cette plateforme propose. Donc là, actuellement, il y a 11 bilans autour des domaines ORL, OMF et de communication. Et donc, en fait, on est sur une trame qui est sur ordinateur ou sur tablette où, en fait, on n'a plus qu'à compléter ce qui est à compléter finalement. Donc, on a cette trame toute faite qu'on propose aux patients. On sait où on va, du coup, forcément. On remplit ce qu'on a à remplir. Et alors, le kiff, c'est que notre compte-rendu de bilan est généré en un clic. Donc, une fois qu'on a terminé de faire passer notre bilan, dès la fin du bilan, mais la première fois que ça m'est arrivé, j'ai cliqué. Donc, en fait, on peut le sortir en Word ou en PDF si on veut le modifier ou pas. J'ai fait PDF, j'ai fait imprimer, j'ai dit, tenez votre compte rendu de bilan. Alors là, j'ai le kiff, parce que vraiment, l'état de compte rendu qu'on a rédigé.
Ouais.
Donc
Et
là.
je me demande comment ça fonctionne très concrètement. Est-ce que toi, sous les yeux, qu'est-ce que tu as? Tu as des listes de questions, tu as des mots, tu dois remplir des choses, qu'est-ce que tu dois faire?
En fait, ce sont des questions où soit on complète des champs libres, ou soit ce sont des QCM. En fait, nous, on a essayé vraiment de penser avec Michel, notre informaticien, que ce soit le plus pratique et le plus rapide à faire passer. Enfin, leur but, en tout cas, Mélanie et Roxane, et puis moi maintenant, depuis que je les ai rejoints, c'est vraiment de faire gagner du temps aux collègues. Donc vraiment, on a essayé de mettre en place le plus de questions fermées possible, avec des champs libres un peu partout, parce que les orthophonistes adorent quand même écrire, de toute façon. On ne peut pas s'en empêcher. Et donc, voilà, c'est des choses à remplir. Le but aussi, c'était d'inciter le plus possible les collègues à prendre en soin ces domaines-là. Parce qu'en pratique, on se rend compte que les patients, parfois, par exemple dans les laryngectomies ou dysphagie, voilà, cancérologie, doivent faire de la route parce qu'ils ont du mal à trouver des collègues qui sont formés dans ces domaines. Et donc là, en fait, on essaye d'inciter les collègues qui n'osent pas se lancer finalement. Parce que c'est le retour parfois que Roxane et Mélanie peuvent avoir dans leur formation. C'est que ben, elles sont formées, mais finalement, j'ai peur de mal faire. En tout cas, en dysphagie, par exemple. J'ai peur de mal faire, j'ai peur que mon patient fasse une fausse route, que j'ai fait quelque chose de mal, etc. Donc voilà, c'était d'inciter le plus possible. Et donc, on a une partie aussi rééducation
Ah,
derrière.
d'accord.
Ouais. Où en fait, donc, on a l'informatisation des dossiers patients. Donc ça aussi, moi, j'ai terminé mes dossiers papier, terminé mes prises de notes de feuilles volantes. Alors, ça aussi, c'est assez satisfaisant. C'est un cap à passer, je trouve, dans la pratique, parce que quand on a des routines, en tout cas dans les cabinets, c'est vrai que on a du mal à passer à autre chose. Pareil, quand on fait une formation, qu'on doit tout révolutionner, c'est un cap à passer. Mais une fois qu'on l'a passé, ça fait du bien. Et donc, on a tout un versant de rééducation, où là, en fait, on propose par domaine aussi, des listes d'exercices, en vidéo quand c'est nécessaire, en images, et tout est détaillé. Et donc dans les bilans, on a essayé aussi de donner le plus de définitions possible. Et dès qu'il y a une question où on s'est dit qu'une collègue peut se demander, mais pourquoi finalement je dois poser cette question, je pense que ça nous est tous, toutes arrivé, enfin en tout cas moi ça m'est déjà arrivé de devoir de poser une question à un parent, parce que j'avais appris en formation qu'il fallait poser cette question, mais finalement je me suis dit, mais pourquoi je dois poser cette question? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Bon, mais je le faisais quand même. Et finalement, là, en fait, on essaie de vraiment mettre le plus de définitions possible et aussi de dire pourquoi il faut. Enfin, il est intéressant de poser cette question. Et donc, on a aussi des illustrations, des images. Toutes nos illustrations sont faites par Mélanie, qui, en plus du coup d'être orthophoniste, est une illustratrice de talent qui arrive à nous faire des planches d'anatomie impressionnantes.
Génial.
Alors que bon, nous, en général, en dessin, on n'est pas super doués. C'est ça.
C'est pas la qualité première, quoi.
Voilà, on est d'accord. Donc là, on a la chance d'avoir Mélanie qui nous fait tout ça. Donc voilà, on essaie d'expliquer le plus possible par des planches anatomiques, des dessins. Tu vois, par exemple, en déglutition, on a toutes les classes d'orthodontie, les classes d'articulés dentaires, tout ça. Elle nous a tout montré. Pour la paralysie faciale aussi, elle a réussi à nous dessiner tous les muscles.
Génial.
Tous les muscles du visage. Donc ça,
Wow.
c'est... Ouais, ça, c'est intéressant. Donc voilà, donc cet outil propose tout ça principalement. On propose aussi des supervisions plusieurs fois dans l'année sur différents thèmes où là on peut proposer soit un cas clinique, soit d'être auditeur ou auditrice simple et qu'on peut écouter et aider nos collègues éventuellement. Enfin voilà, on est vraiment là pour accompagner les collègues à prendre en soin et à surtout gagner du temps, quoi. Et à
D'accord.
transmettre cette passion sur tous ces domaines ORL, OMF, quoi.
Et comment ça fonctionne cette plateforme? Est-ce que c'est un achat, c'est un abonnement?
C'est un abonnement, soit mensuel, soit annuel.
D'accord, ok.
Voilà.
Et je me demandais pourquoi toi, tu as eu envie de rejoindre l'équipe? Ou alors comment t'es arrivé en fait dans cette équipe? Parce que tu n'y étais pas à la base.
Non, 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 j'y étais pas au départ. J'étais juste utilisatrice, en fait, finalement, de la plateforme dès le début. Et en fait, moi, vraiment, ça m'a vraiment révolutionné ma pratique, en fait. J'ai vraiment trouvé un outil qui a vraiment changé ma vision des choses dans ma pratique au quotidien. Et au départ, elles m'ont proposé d'être l'autrice de la trame de troubles alimentaires. Parce qu'en
OK.
fait, on a différentes autrices sur la plateforme. Par exemple, sur l'apnée du sommeil, on a Pascal Doucet. Sur la communication, c'est Émile Le Sec, par exemple. Enfin, voilà, on pourrait aller voir tout ce qu'il y a sur notre plateforme. Et
Génial.
donc, j'ai d'abord été l'autrice. Et puis, en fait, je conseillais tellement cette plateforme à tout le monde. Je devenais même, je pense, agaçante auprès de mes amis, collègues orthophonistes. Parce que j'en parlais tous les jours, que en fait, finalement, je m'investissais de plus en plus. Et jusqu'au jour où, finalement, on s'est proposé toutes les trois, on s'est dit, mais pourquoi pas rejoindre l'aventure? Aussi parce que moi, enfin, je pense que tu as pu le remarquer, j'aime faire énormément de choses, parce que j'ai encore autre chose que je fais en orthophonie. J'en parlerai juste après. Et donc, voilà, j'ai rejoint l'aventure un petit peu comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir travailler avec Michel, notre informaticien, où vraiment, nous, on a nos idées d'ortho. Et lui, en fait, il essaye vraiment d'appliquer pour que ce soit le plus ergonomique et efficace pour
Ouais.
nous. Et où il arrive à toujours rendre concrètes toutes nos idées et tous nos rêves un peu d'ortho. Donc
Est-ce qu'il
ça,
y a des
c'est super
moments
intéressant.
où il doit vous remettre les pieds sur terre et où vous dites
Oui,
non, ça c'est pas possible?
bien sûr. Bien évidemment. Forcément, on a tellement d'idées que parfois, non, là, les filles, vous exagérez.
C'est trop.
C'est trop, c'est trop. On veut tellement apporter que non, non. Donc c'est intéressant du coup finalement d'avoir un regard aussi extérieur du coin de notre
Oui,
profession.
bah complètement. Et toi, c'est quoi ton rôle maintenant dans EcoOrtho?
Alors donc là je continue à être autrice du coup je mets en place les rééducations
Ouais.
et je m'occupe aussi de toute la partie communication sur les réseaux. Parce que, bon, je pense que tu le sais aussi du coup vu que tu as des pages sur Instagram, ça prend du temps aussi ça.
C'est
Donc
clair.
voilà, je m'occupe de tout ce côté-là.
Ok.
Après, on fait tout un petit peu de tout, hein, mais on essaie de se répartir les tâches, hein, forcément, sur tout ce qui va être administratif, etc. Mais principalement, oui, je vais faire ça.
Ouais, super. Et est-ce que il y a d'autres ambitions pour EcoOrtho de d'élargir au-delà du domaine ORL, OMF, par exemple?
Ben, là, en fait, avec le bilan d'Emeline en communication, on a ouvert justement une nouvelle partie. Donc, je pense qu'on va. De toute façon, on a des nouveaux bilans hein, qui arrivent bientôt, de nouvelles rééducations qui arrivent très bientôt aussi. On n'a pas fini d'aller puiser tous les domaines ORL.
Ouais.
Donc, ça, il y en a de nouveaux qui arrivent. Mais très, très bientôt, on ouvre une boutique en ligne aussi.
Ah,
Là,
d'accord.
alors ça, c'est la grosse surprise. Donc, pour les auditeurs auditrices, ça va sortir très bientôt. Parce que pareil, on s'est rendu compte que quand on achète notre matériel, en tout cas matériel pour les adultes ou en déglute par exemple, finalement on doit aller sur différents sites pour aller chercher tous les articles. Et nous, en fait, on a envie de tout centraliser, de proposer vraiment des kits par domaine sur ces domaines ORL, OMF, où par exemple en oralité, on a plein de matériels différents,
Oui.
forcément très très divers. Et finalement, on va proposer de venir chercher tout ce qu'il faut au même endroit, en fait.
D'accord. Et
donc, déjà là...
Si tu nous donnes un petit exemple, par exemple, dans un kit, alors je ne sais pas, un kit assez simple peut-être, qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans?
Bah, ou par exemple, par exemple, là, en oralité, on va proposer donc, toutes les balles sensorielles, par exemple, les différentes sortes de slime, des couverts différents, des assiettes, des pailles. Donc, tout ce qui va être OMF, on va proposer énormément de jeux de souffle différents. Donc, petits matériels autour du souffle et aussi des matériels un petit peu basiques mais finalement qui sont indispensables. En tout cas, je pense notamment pour les acouphènes, ça va être les pailles, les pompons, ouais, les plumes, de la mousse qu'on va devoir utiliser en mastication par exemple. Tous ces matériels-là, en fait, finalement, en dysphagie, tu sais, les cotons-tiges pour aller faire le soin de bouche aux patients par exemple.
Génial.
Toutes ces choses-là,
ouais. C'est une super idée parce que j'avoue que moi, je déteste faire... Enfin, tu vois, aller chercher à droite, à gauche. Et je sais qu'il y en a qui adorent comparer, faire du shopping en ligne. Moi, ça me saoule. C'est vraiment la corvée. Et je le fais, tu sais, quand il n'y a plus rien dans les stocks. Quand c'est,
exactement. Quand mais c'est je fais ça aussi. Et même rien qu'en comptabilité pour retrouver les factures. Une catastrophe. Et je sais que tel site, il vend un seul article. Par exemple, je pense aux mousses de mastication. C'était sur un seul site et il est le seul à le faire. C'est toujours une corvée. Et donc là, pour celles et ceux qui sont comme nous, eh bien voilà, il y aura cette boutique en ligne.
Eh bien, super idée. Est-ce que vous avez une idée de quand elle va être mise en service?
Là, on est en train vraiment de travailler dessus. Au plus tard, au début d'année prochaine, janvier 2024, on y est.
Ok. Ça sera mis en place.
Ouais,
et
ouais, ouais.
Concrètement, comment vous allez faire? Vous allez devoir tout stocker?
Oui. Ouais. Oui, alors on se rajoute ça, hein, tout à fait. On stocke ça. Voilà, on a réservé une salle pour ça, avec vraiment les envois de colis, tout le matériel.
Donc oui, ça va vous rajouter une casquette en plus pour la logistique, pour tout envoyer.
Tout à fait.
Ok. Bon, bah super, merci pour ta présentation, en tout cas sur EcoOrtho. Et est-ce que vous aimeriez mettre quelque chose en place pour les auditeurs et les auditrices de La Parole aux Orthophonistes?
Oui, bien sûr. Donc là, on propose deux codes promo en fonction de si vous préférez l'abonnement mensuel ou annuel. Donc pour l'abonnement mensuel, vous pouvez ajouter le code promo PODCAST10, puisqu'on propose 10 euros de réduction sur le premier mois. Et pour l'abonnement annuel, c'est podcast 30, puisqu'on propose 30 euros de réduction sur l'abonnement annuel.
Ah bah super, merci en tout cas pour ce geste que vous faites pour les auditeurs et auditrices. On mettra tout ça dans la description du podcast. Un grand merci. on va arriver vers ton autre activité. Donc tu nous dis encore une autre casquette.
En fait, je suis aussi formatrice. Donc là, pour le moment, je propose une formation sur les apports de la diversification alimentaire menée par l'enfant en orthophonie. Puisque finalement, c'est un outil que j'utilise en pratique au quotidien avec mes patients d'oralité. Okay. En fait, la DME, je l'ai découverte d'abord en tant que maman avec mon fils. Et puis finalement, quand je me suis formée avec Audrey, Emeline, tout ça, j'ai dit, je vais faire un beau mélange de tout ça. Et puis, j'ai eu des demandes en orthophonie sur comment mettre ça en place, puisque en pratique, mes collègues me disaient qu'elles avaient de plus en plus de parents intéressés par la DME à travers leur enfant en présentant un trouble alimentaire. Et donc, ils me demandaient, mais comment faire? Je ne sais pas ce que c'est. Surtout qu'il y a aussi plein de fausses croyances qui tournent autour de la DME. Et donc, voilà, je propose aussi cette formation. Tout le reste.
Et comment ça se passe? C'est des formations en présentiel, à distance, ça?
Les deux. En fait, je propose en visio et aussi en présentiel, principalement dans le Nord, du coup.
D'accord. Et tu es dans un organisme de formation ou c'est toi qui fais à part?
Pour le moment, c'est moi qui fais à part.
Ouais.
Voilà.
Ok. Et sur EcoOrtho, c'est prévu qu'ils mettent des formations ou pas forcément?
Alors justement, sur EcoOrtho, j'ai prévu de le proposer en e-learning.
Ah, donc, génial.
Un tarif tout doux justement pour les abonnés.
Oh, super, ok.
Voilà.
Bon, très chouette. j'aimerais te demander, t'es déjà plein de casquettes et de choses prévues. Est-ce qu'il y a d'autres choses, soit que tu aimerais développer ou modifier dans, dans toutes tes pratiques actuellement?
Non, moi je dirais finalement de garder cet objectif de soigner les patients, finalement. Parce que finalement, via toutes mes casquettes, et je pense que Roxane et Mélanie me rejoindront en tout cas, et c'est ce qui m'intéressait via EcoOrtho de toute façon, c'est que finalement, même si on va aller se diviser en tout cas via toutes ces casquettes, il ne faut pas oublier que c'est pour notre patient, au service du patient. Dans le soin et c'est ce qui importe le plus, même si je vais aller proposer une formation, c'est que pour mes collègues puissent proposer du soin aux patients, même si ça va être sur une intervention de prévention auprès des médecins, bah, c'est pour que finalement derrière ils aillent donner les bonnes informations auprès des patients. Donc je pense que c'est quelque chose que je dois continuer à garder, parce que finalement des projets je pense que j'en aurai toujours parce que j'adore ça et que je n'aime pas du tout la routine. Mais finalement, j'essaye de faire attention régulièrement, de me poser, de me dire, OK, mais mon objectif, c'est ça, c'est vraiment de soigner mes patients, les patients, en tout cas.
Génial. Et j'aimerais qu'on aborde peut-être, ça, c'était pas dans les questions que je t'ai envoyées. est-ce que tu as rencontré des difficultés? Je pense, par exemple, des difficultés à mettre en place conjointement toutes ces choses différentes que tu fais, ou des difficultés quand tu t'es lancée dans une nouvelle activité. Et ça, en général, je sais que les auditeurs et auditrices aiment bien aussi pouvoir voir un petit peu les difficultés qu'on rencontre, mine de rien, quand on fait plusieurs choses aussi, parce que c'est important de s'en rendre compte que c'est pas toujours tout rose.
Non, pas du tout. Non, c'est difficile parce que finalement, en fait, ça demande quand même des sacrifices. Ça demande énormément de temps, et c'est vrai que pour la famille, par exemple, forcément, que moi je passe énormément de temps à travailler ouais. Le soir, par exemple, enfin, je passe mes soirées à travailler, à avancer pour la plateforme, pour mes formations. Ouais. Donc non, c'est pas toujours rose, bien évidemment. Après, ça demande beaucoup d'organisation, forcément. Ouais. Mais oui, c'est ça, en fait. C'est vraiment l'organisation du quotidien et aussi, oui, des sacrifices quand même que je dois faire, en tout cas pour ma famille, parce que finalement, j'ai peu de temps libre. Donc, c'est vrai que pour le moment, j'arrive à maintenir le cap comme ça. Maintenant, je pense que je dois aussi faire attention, justement, à savoir ralentir quand il le faut, prendre des vacances quand il le faut. Tu en avais parlé sur... sur le dernier podcast, je crois que tu as sorti sur le sujet, faire un sujet d'un sujet, c'est intéressant, sur le fait aussi d'arrêter de se mettre la pression aussi, parce que finalement, quand on se lance dans différents projets comme ça, on s'engage, et je pense qu'on est nombreuses en orthophonie à aussi essayer de faire les choses parfaitement.
Ouais.
Et tu le disais très bien, à se mettre la pression tout seul, comme des grands.
C'est ça, on a besoin de personne pour se mettre la pression.
C'est ça. Donc ça, c'est pas évident aussi, quand on est sur divers projets comme ça, c'est d'avoir la tête partout et aussi de savoir lâcher prise quand parfois ça prend plus de temps, en fait. C'est de se dire, ça, c'est pas grave, je le ferai plus tard.
Ouais.
Et ça, c'est difficile. Donc non, c'est pas évident. C'est vrai que quand on écoute certains orthophonistes, on se dit mais comment ils font? Mais en fait non, c'est difficile pour tout le monde.
Et puis c'est une question aussi de priorité un petit peu. Justement, il y a Élodie que j'ai interviewé, l'épisode n'est pas encore sorti, mais qui elle aussi a plein de casquettes différentes. Et en fait, elle nous expliquait que c'était son équilibre à elle. Et que si elle avait moins de choses, en fait, ça serait pas équilibré pour elle, mais que justement, là, elle trouvait son équilibre entre vie pro, vie perso, là-dedans, et que sinon, c'était un petit peu déséquilibré pour elle, alors que pour d'autres personnes, ça serait justement, ils ferment la porte du cabinet, et on n'en parle plus, et c'est ça leur équilibre aussi. Mais on est tous hyper différents, et à différents stades de la vie aussi, ça change.
Oui, c'est ça. Ça dépend aussi de là où on est dans notre vie, forcément, et dans notre pratique. Et c'est vrai que moi, finalement, passer mon temps libre à faire de l'orthophonie, en fait, moi, ça, pour le moment, en tout cas, ouais. Ça peut changer, bien évidemment. C'est ce qui m'intéresse aussi, en fait.
Ouais. Donc, là, tu parlais de sacrifice. Est-ce que tu as l'impression de le vivre comme un sacrifice pour l'instant, Ou est-ce que c'est plutôt dans le regard des autres, tu dis bah, peut-être qu'ils considèrent que c'est un sacrifice de passer un petit peu moins de temps avec la famille ou d'avoir les soirées occupées par l'orthophonie?
C'est un peu des deux quand même. Là, je pense que je suis dans une période où, où il faut que justement, enfin, j'ai plein de projets à mener. Donc, c'est vrai que oui, j'aimerais passer plus de temps avec, avec ma famille, avec mon fils. Mais c'est aussi, oui, avec le regard des autres où on pourrait se dire, mais oui, mais la vie de famille, c'est important aussi. Oui, évidemment, c'est très important. C'est ce qu'il y a de plus important, bien évidemment. Mais aussi, moi, je me plais là-dedans et je m'amuse finalement énormément là-dedans. Et donc parfois certaines personnes qui vont dire mais tu fais pas de sport ou tu lis pas des romans tout ça. Et ben non en fait parce que
C'est ça
quand
ton
je
truc.
prie c'est ça voilà c'est ça. Donc mais oui c'est tout à fait un équilibre en fait que j'arrive à trouver parce que j'arrive quand même bien évidemment à passer du temps avec ma famille mais c'est plutôt là les soirées voilà une fois que mon fils est couché ok je peux me remettre à travailler.
Ah oui. Et ben en tout cas, merci d'avoir partagé aussi ces difficultés avec nous parce que je trouve ça hyper inspirant et ça permet de soi-même réfléchir à où on place le curseur entre équilibre vie pro, vie perso et qu'est-ce qui résonne pour nous aussi selon où on en est. Parce que c'est vrai que c'est hyper différent. Moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler, je passais toutes mes soirées à faire de l'orthophonie. Bon, en même temps, c'était un peu période confinement, donc ça m'allait bien. Et je sais que maintenant, ce n'est plus quelque chose qui me convient et que eh ben, à 18h, 18h30, j'essaie de couper et je fais ça à d'autres moments. Et après, je sais que ça changera encore plus tard, que j'organiserai sûrement différemment. Mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, ben, surtout quand c'est d'autres activités comme ça où tu n'as pas forcément des horaires à respecter, tu peux aussi voir quand tu les places et qu'est-ce qui te convient le mieux.
Oui, c'est ça, ça, j'en prends conscience aussi, c'est que en fait, j'ai pas besoin de devoir faire les choses là tout de suite maintenant. Je peux avoir aussi des périodes dans ma vie ou des mois dans l'année où ben là, je peux me permettre de ralentir. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est une pression qu'on se met tout seul, en fait, finalement. On a besoin de personne.
C'est ça. On est très autonome là-dessus. Hein.
Ah oui.
Bon, ben, en tout cas, Constance, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as fait passer. On va arriver à la dernière question du podcast. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices?
Et finalement, c'est de vraiment prendre plaisir dans ce que vous faites, quoi que vous fassiez, quelles que soient les pathologies que vous allez prendre en soin. Là, on a beaucoup parlé des troubles ORL, OMF, mais quel que soit langage oral, langage écrit, les maths, la neuro, enfin bref, tout ce qu'on peut prendre en soin. Prenez plaisir vraiment, aimez ce que vous faites et sans vous mettre la pression, finalement, c'est vraiment de kiffer, en fait, finalement. Être en face de vos patients et dans vos lectures, tout ça, c'est prendre plaisir finalement parce qu'on a un métier passionnant, on a la chance d'avoir un métier passionnant et je pense qu'on peut tous et toutes trouver notre domaine de prédilection. Il y a tellement de formations différentes, je sais pas moi, l'équithérapie, la médiation animale par exemple, ou l'hypnose par exemple, je vois des collègues qui sont vraiment en hypnose avec l'orthophonie, enfin voilà, c'est trouver votre truc et puis allez-y à fond et kiffer.
Et ben vraiment merci beaucoup pour ton mot de la fin aussi,
Merci à toi.
Constance. Avec grand plaisir. On mettra toutes les infos dont on a parlé dans la description du podcast si les personnes veulent retrouver et aussi les codes promo que vous avez gentiment mis en place pour les auditeurs de La Parole aux orthophonistes.
Très
Un
bien,
grand
merci.
merci. Un grand merci Constance, à bientôt.
À bientôt.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à La Parole aux orthophonistes.